Bulgare possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a un certain nombre d'interdictions malgré l'interdiction de manifestation. Je pense notamment aux arrêtés pris par Madame la Préfète pour l'interdiction de transport d'armes.
5 avril 2023, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, au sujet de la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline.
Sachez que cet arrêté de transport d'armes qui semble frapper du coin du bon sens a été attaqué au tribunal par la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif a validé fort heureusement le travail de la préfète des Deux-Sèvres, mais pour vous dire dans quel état d'esprit un certain nombre de personnes étaient en vue de cette manifestation.
Gérald Darmanin a donc expliqué que la Ligue des droits de l'homme critiquerait des arrêtés préfectoraux de transport d'armes. Des propos stupéfiants, la LDH serait donc un organisme qui encouragerait la violence armée et bien entendu l'écoterrorisme. Mais Darmanin ne s'est pas arrêté là, en sous-entendant que désormais la LDH soutiendrait le terrorisme, il a clairement menacé l'association de lui couper ses subventions.
Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener.
Suite à ces propos aberrants contre la LDH, le 12 avril 2023, la députée Éliane Assassi, présidente du groupe communiste, prend la parole à l'Assemblée et s'adresse à la première ministre d'alors, Elisabeth Borne.
Ma question sera particulièrement solennelle. Elle concerne la République, la défense des libertés et des droits. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a menacé de manière à peine voilée la Ligue des droits de l'homme de sanctions financières. Il a déclaré, il faut être précis, « Je ne connais pas la subvention donnée par l'État, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions menées. » Madame la Première ministre, les choses sont claires. Votre ministre de l'Intérieur envisageait sans sourciller remettre en cause les subventions à la LDH, car cette dernière avait exercé un rôle d'observateur de vérification du respect des libertés et des droits à Sainte-Soline ou sur d'autres théâtres d'affrontements de tensions. Ces menaces sont d'une gravité insupportable. Pouvez-vous accepter qu'un ministre de la République envisage de porter atteinte à une association qui est l'honneur de cette dernière ? La Ligue des droits de l'homme, vous le savez, mais je le rappelle, a été créée pour défendre un innocent victime de l'antisémitisme et de la raison d'État, le capitaine Dreyfus. Elle a étendu d'emblée son action à la défense de tout citoyen victime d'une injustice ou d'une atteinte à ses droits. Dès le début du XXe siècle, seule, elle porta la justice sociale et les droits des travailleurs. Madame la Première ministre, n'oublions pas, à la libération, un tiers du comité central de la LDH avait disparu, assassiné, mort, en déportation ou fusillé. Victor Bache, son président, fut assassiné en 1944 avec son épouse Ilona par la milice et les nazis. Tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, cette grande association exerça avec vigilance et humanisme le contrôle des excès des pouvoirs publics. Sans elle et d'autres vigies, l'autoritarisme nous guette peut prendre le dessus. Avec 1000 personnalités qui ont déjà signé une tribune publiée ce jour dans l'Humanité, nous le disons fermement. Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme. Je vous demande, Madame la Première ministre, d'affirmer sans ambiguïté qu'aucune menace ne pèse sur elle. Je vous demande d'affirmer devant le Sénat que vous désavouez les propos de votre ministre de l'Intérieur.
Comme le rappelait la députée Éliane Assassi, et on va aujourd'hui revenir sur l'affaire Dreyfus dans cette émission, la Ligue des droits de l'homme a été créée pour défendre le capitaine Dreyfus et lutter notamment contre l'antisémitisme. Ce rappel historique met la première ministre de l'époque un peu mal à l'aise. Madame Elisabeth Borne a en effet des aïeux juifs ashkénazes d'origine russo-polonaise, les Bornstein, mais on le verra tout à l'heure. Elle défendra malgré tout les indéfendables propos de Darmanin. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et la voix off.com et pour votre radio toujours libre préférée. Vous allez aujourd'hui passer une heure avec Didier, membre de la Ligue des droits de l'homme, rencontré fin mars 2026 à Mel, pas très loin de Sainte-Soline. Avertissement aux personnes sensibles, cette émission proposera des sons et rappellera des faits extrêmement violents et choquants. Bonjour Didier.
Bonjour.
à ce stand. Aujourd'hui, là, c'est les 3 ans commémoration de la féroce répression policière de Sainte-Soline. C'était le 25 mars 2023 et on se retrouve là. Tu y étais d'ailleurs à Sainte-Soline?
Tout à fait, j'étais présent, oui. Oui, oui.
Sur ton cœur, ce badge de la Ligue des droits de l'homme, et donc tu es derrière ce stand où il y a plein de brochures et de documentation proposées par la LDH. Je voudrais même bien qu'on commence par ici, parce que ça a l'air d'être des petits guides pratiques.
Nos droits, donc, c'est principalement en manifestation, en garde à vue, le troisième, les violences policières, et puis le contrôle et les fouilles en manifestation. Alors tout ça, il y a dans la boutique de la Ligue, il y a le récap de tout ça. C'est un petit bouquin. C'est notre présidente Nathalie Théot qui a mis ces petits feuillets en place parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait quand même une méconnaissance du manifestant.
Effectivement, j'ai découvert à quel point je ne connais pas mes droits.
Bah, oui.
Quelqu'un m'a parlé justement de la garde à vue là, il n'y a pas très longtemps.
Oui.
Puis bah, voilà, il y a tout un petit dépliant
tout
là-dessus.
Tout le monde peut aller en garde à vue. Il suffit qu'il y ait un problème, quelque chose, vous êtes interpellé et on vous met en garde à vue. Même si vous n'avez rien fait.
Il faut le savoir, on a le droit de garder le silence,
tout à fait,
on peut refuser de donner son ADN, et ce genre de trucs.
En garde à vue, vous avez des droits. Quand vous êtes interpellé, vous êtes mis en garde à vue. Il y a un certain nombre d'heures en fonction du motif. Et puis, c'est une obligation. Vous devez aller voir un médecin qui certifie comme quoi vous pouvez être mis en garde à vue. Vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à un coup de téléphone aussi, donc d'appeler la famille ou l'avocat, voilà. C'est pas n'importe quoi. Il y a des droits. Et il faut veiller aussi à ce que ces droits soient respectés. Il y a quand même un officier de police judiciaire qui signifie la garde à vue. Et j'ai l'impression, c'est assez respecté. Après, dans quelles conditions? Ça, il faut voir aussi.
Et ces informations-là, on les retrouve sur le site de la LDH, on les retrouve.
Donc le site, c'est tout simple, LDH. Et hop, vous avez tout ça. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut prendre un peu de temps, il faut fouiller, il faut chercher. Et vous pouvez télécharger ces petits feuillets. Ouais.
Sur la documentation que vous proposez toujours sur cette table, il y a aussi cet abécédaire des discriminations.
C'est toutes les discriminations qui existent et ne sont pas toutes là. Okay. Vous voyez, à l'intérieur, si j'ouvre, je vois emploi et travail.
Éducation, égalité, égalité des chances, égalité de traitement, emploi fermé, état de santé. Là, on est juste à la lettre E.
Il y a 20 pages, quoi.
Juste à côté, lutter contre le racisme, là, c'est beaucoup plus épais. Débat et enjeux et controverses d'aujourd'hui. T'as ouvert au hasard, le débat sur les lois mémorielles. Racisme colonial et néocolonial. Et puis, il y a aussi cette revue dont il y a plusieurs numéros proposés, c'est Droits et Libertés.
C'est la revue de la LDH. Et donc, tous les mois, pour ceux qui sont abonnés, reçoivent cette revue, moi je la reçois. Là, vous avez l'état de droit.
Une fragilisation inquiétante.
Voilà, absolument. Là, c'est la lutte des femmes, mouvement féministe.
Police et démocratie.
Voilà, tension. Être jeune aujourd'hui. L'Union européenne, terrain d'action pour les droits, justice, efficacité, démocratie, démocratie et contre-pouvoir, et puis le social, quel état, voilà.
Puis de quoi adhérer aussi.
Il y a un petit triptyque, là, c'est l'histoire de la Ligue. Les actions, l'indépendance, faire échappe à l'extrême droite, c'est un combat que l'on mène depuis longtemps. Le pouvoir de l'homme, liberté, égalité. Il y a tout le passé, Dreyfus. On est connu. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qui nous sommes. Et c'est important. Et ça aussi permet de justifier un peu notre nom, la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi la Ligue des droits de l'homme? Parce que 1898, donc il y a une histoire, il y a plein de choses, et c'est à nous à l'expliquer.
Et la LDH, c'est une vieille histoire qui nous ramène au millénaire dernier, 1898, l'affaire Dreyfus. Le capitaine Dreyfus est injustement accusé d'espionnage au service de l'Allemagne et ça va diviser la France en deux. On va parler des Dreyfusards, des anti-Dreyfusards. Il y a cette célèbre une, j'accuse, Zola. Voilà, ça va nous refaire un peu d'histoire, mais c'est bien de revenir là-dessus parce qu'il s'agit de combattre une injustice. Et la LDH, des injustices, elle en combat et elle en observe jusqu'à aujourd'hui. Mais d'abord, un petit peu d'histoire.
Oui, donc l'histoire, en effet, c'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus accusé de trahison, donc sous fond d'antisémitisme. Et pour réouvrir le procès Dreyfus, c'était un collectif, et entre autres avec Zola, j'accuse, et plein d'intellectuels de l'époque. Et donc, ça a fini par que Dreyfus fut réhabilité. dans l'armée, il a retrouvé son grade, etc., etc. Après des souffrances, parce qu'il a été quand même
incarcéré sur l'île du diable et dans des conditions absolument épouvantables. Celui qui était le véritable auteur des fuites, etc., lui, n'a pas vraiment été condamné ni persécuté par la justice.
Puis après, il ne faut pas de vagues, bien sûr. Voilà, donc c'est là où s'est créée la lignée des droits de l'homme, avec beaucoup de problèmes aussi. Déjà à l'époque, il y avait des refus politiques, parce que on dérange, bien sûr. Donc la première mission de la Ligue, c'était la défense du droit pénal. Ensuite, il y a eu la défense des droits sociaux, 1936, où la Ligue était très engagée. Et aujourd'hui, nous sommes généralistes pour la défense des droits fondamentaux principalement.
Les droits fondamentaux sont le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de vote et d'être candidat à des élections, le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales, le droit de posséder des biens et d'en jouir pacifiquement.
Et puis aussi donc la lutte contre toute discrimination, quelle qu'elle soit. On ne fait pas de sélection, on prend les problèmes les uns après les autres. On est toujours présent et puis on essaie de dénoncer et aussi de régler par la loi. La Ligue, c'est d'emmener les gens devant des tribunaux. Récemment, il y a eu une loi, une saisine qui a été faite à un ancien responsable de Frontex. On a même porté plainte contre Retailleau, Zemmour aussi, pour des propos qui étaient un peu déplacés. Donc c'est notre combat au quotidien. Et puis, aujourd'hui, on a du grain à moudre, puisque, l'état de droit est quand même bien attaqué par nos politiques actuelles. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Voilà. Donc, on est toujours présent depuis 1898. La Ligue, c'est une vieille dame. Voilà.
Est-ce que vous avez débattu entre vous pour savoir si vous n'allez pas vous renommer Ligue des droits humains, par exemple ?
L'homme, c'est pas l'homme masculin. D'ailleurs, c'est sans distinction de sexe, de race, etc., etc. Voilà, donc c'est quand même bien précis. C'est très difficile, c'est très compliqué, parce que donc 1898, on a un passé. Le terreau de la Ligue des droits de l'homme, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est notre terreau. Donc il y a des débats à chaque congrès, tous les deux ans. On en parle, il y a des propositions, mais on ne change pas. Voilà, donc il y a à peu près 50% qui veulent changer, d'autres qui ne veulent pas. C'est un grand débat. Pour des raisons tout à fait respectables, on verrait plutôt le nom avec les droits humains. Ce qu'a fait d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme belge, et même la FIDH, qui est une émanation de la Ligue des droits de l'homme. Avant, c'était les droits de l'homme, Fédération internationale des droits de l'homme, et ils ont changé, c'est la Fédération aujourd'hui des droits humains. Mais c'est plus récent, avant l'an 2000, et on n'a pas ce passé que nous avons à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est difficile, même il y a un groupe de travail histoire à la Ligue et ils n'ont pas la solution non plus. Mais bon, comme disait Henri Leclerc, c'est
Maître
un...
Maître
Henri Leclerc, oui, un avocat qui était baptisé l'avocat des gauchistes. Quelqu'un qui avait monté un cabinet d'avocats avec des copains de promotion. La consultation, c'était le prix d'un médecin généraliste. Et celui qui n'avait pas d'argent, il ne payait pas. Voilà. Donc c'est ce que Henri Leclerc disait, on a d'autres choses à faire que de se chamailler sur un nom. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de travail, compte tenu de notre conjoncture politique de notre pays, quoi. Donc faut passer du temps ailleurs. Grosso modo, il y a 47% de personnes qui souhaitent changer de nom et 53% qui est des personnes qui souhaitent ne pas changer de nom. Et moi, personnellement, je ne souhaite ne pas changer de nom.
Parler du droit pénal, puisqu'on est parti de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, beaucoup de gens de l'époque savaient que Dreyfus était tout à fait innocent, mais en fait, le grand problème, c'était qu'on critiquait l'armée. L'armée et la religion, même des accusateurs de Dreyfus qui savaient Dreyfus pertinemment innocent, dans une période de tension où on sentait que la guerre avec l'Allemagne pointait le bout de son nez, attaquer l'armée, finalement, certains pensaient que c'était attaquer la France. Enfin bon, il y avait tout ce truc-là.
C'est ça, tout à fait, absolument.
C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays.
Yves Dutheil a chanté l'affaire Dreyfus avant de poursuivre avec Didier de la Ligue des droits de l'homme.
À travers toute son histoire, la LDH a aussi beaucoup combattu auprès des syndicats, auprès de la CGT, donc il y a le droit du travail, il y a le droit à la santé.
Les CGT, on a des liens forts. Quand il y a eu ces grandes revendications ouvrières, il y a des militants de CGT qui ont été incarcérés, même d'autres qui ont été condamnés pour crime, alors que c'était des gens qui n'avaient rien fait, sauf de faire du syndicalisme. Et on est intervenu pour que ces personnes soient libérées. Alors c'est beaucoup d'histoires, mais il y a des liens forts avec la CGT. Et aujourd'hui d'ailleurs, notre présidente Nathalie Théiot est très proche de Sophie Binet. Voilà.
Comment se finance la Ligue des droits de l'homme ?
Alors, principalement par les adhésions. Il y a aussi des legs, des dons. Et on a une subvention aussi de l'éducation nationale, puisque nous sommes agréés éducation nationale. Et après, on a aussi, avec la Massif, il y a des choses qui sont mises en place. On avait la compagnie de taxi G7, où les chauffeurs sont bien souvent des gens issus du Maghreb, où il y a des problèmes aussi. Donc là, on a quelques rémunérations. Au maximum, on veut être indépendant.
Voilà. Autonome et indépendant.
Voilà.
Il y avait des petits subsides, probablement de l'État, mais alors j'ai entendu dire que Elisabeth Borne, trouvant que vous étiez un petit peu trop du côté des vilains éco-terroristes, vous ont dit que vous aviez basculé.
J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Et elle s'est confortée depuis quelques mois. Et je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Cette incompréhension est partagée par de nombreux acteurs associatifs. Et dans une lettre adressée hier au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le président de la LICRA a dénoncé les dérives et la défaillance de la Ligue des droits de l'homme.
Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener.
Alors on n'est pas du côté des vilains, on est du côté de la défense des droits. Alors si c'est d'être vilain parce qu'on défend les droits, notre société est partie dans des dérives qu'on peut imaginer. L'avenir n'est pas rose si c'est ça. Et je pense que malheureusement c'est ça.
Il y a combien d'adhérents et d'adhérentes à la Ligue des droits de l'homme en France ? D'ailleurs, est-ce que c'est une organisation française, nationale, ou est-ce que ça rayonne ailleurs dans le monde ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, proprement dit, c'est une association nationale qui est composée d'environ 300 sections, 12 000 adhérents. Il y a section locale. Personnellement, je suis à la section de Saintes. Il y a ensuite les fédérations, les délégations régionales. Donc, je suis délégué Poitou-Charentes. Et puis ensuite, on a le secrétariat national, le bureau national. Une section a une indépendance. On ne fait pas ce que l'on veut, bien sûr. Il y a un fil directeur, un chemin directeur sur le national, par rapport au national. Mais on est quand même indépendant. C'est géré comme une association. Donc il y a un bureau, il y a un président, un trésorier, un secrétaire. On a aussi un compte en banque. Donc voilà, on est vraiment indépendant.
Est-ce que vous êtes affilié avec des organisations sœurs ailleurs dans le monde, voilà. Human Rights Watch ou...
Voilà, je voulais y venir. Donc on a c'est une émanation de la Ligue des droits de l'homme qui s'appelle la FIDH. Donc c'est sur les 5 continents et on défend aussi le même travail, les droits de l'homme. Ce qui est quand même très complexe, parce que bon, on connaît un petit peu ce qui se passe sur des continents comme l'Afrique, hein, toute cette corruption et autres. Et bien sûr, on essaie d'emmener les gens au tribunal, pour des délits de guerre et autres, mais ça n'aboutit pas souvent, quoi. Alors il y a quand même des choses qui se précisent, mais c'est un gros travail et un long travail, quoi. C'est différent que ce qu'on peut faire ici en France, quoi.
Alors, quand tu parles de travail, et je voudrais en plus parler de rigueur, je voudrais faire part d'une expérience personnelle. Pendant le village de l'eau en 2024, il y a une manifestation du côté de Saint-Messant-l'École. Il était question d'aller manifester et poser des panneaux devant un site agro-industriel, un fabricant de semences. Il y a un arrêt à Saint-Messant-l'École et la gendarmerie suit le cortège. Il y avait une espèce de jeu de piste. Et à Saint-Messant-l'École, j'aperçois trois personnes habillées toutes en blanc. Il y avait une personne qui regardait, deux autres qui prenaient des notes. Avec ce même magnétophone, je vais vers les trois personnes qui sont en train de travailler. Et celle qui observait, tout de suite me dit « Non, non, je ne peux pas discuter avec vous, je ne peux pas parler avec vous parce que ça va corrompre notre protocole d'observation. Nous, on a une exigence de neutralité absolue. » Donc, je suis reparti bredouille, mais en même temps en disant « Bon, c'est sérieux, la LDH. Quand ils sont en protocole d'observation, ils sont en protocole d'observation. »
Tout à fait, il y a une rigueur. Donc, il y a une charte de déontologie. Donc, où on doit la neutralité, on observe. On va peut-être revenir sur l'organisation des observatoires. C'est vrai que c'est très rigoureux, on est très attentif à ça. C'est ce qui permet aussi d'être crédible.
Vous êtes toujours habillé en blanc dans les manifestations et trucs comme ça, c'est comme ça qu'on vous repère.
Oui, oui, oui.
Et vous travaillez en trinôme, enfin, il y a deux personnes.
Alors, l'organisation. Sur le territoire national, il y a plus de 20 observatoires. Il y en a à Lille, à Strasbourg, Rennes, Angers, etc., etc. Toulouse, le premier, Toulouse. Ensuite, il y a eu Bordeaux, Paris, et puis ça s'est étendu dans tout le territoire, Marseille, etc. Ici, en Poitou-Charentes, il y avait Sainte-Soline 2022, le premier. Et on s'est dit, mais attends, c'est pas possible de voir ce qui se passe sur notre territoire. On va créer un observatoire. Donc on l'a créé en toute hâte, très rapidement. Ça a étonné tout le monde, d'ailleurs. Et le 13 mars 2023, on a officialisé, on a envoyé des recommandés au préfet de la région Poitou-Charentes, au procureur de la République, à tous les tribunaux. Donc c'est quelque chose d'officiel. Puis on était donc à Sainte-Soline. Moi-même, j'étais aussi à Sainte-Soline. On avait un stand en bout de cette place, une vingtaine d'observateurs, je crois, parce que c'était quand même notre baptême du feu. Alors on a fait fort parce que c'était quand même le pire cause que voilà, manifestation qu'on a pu connaître.
Vous avez un don pour être dans les événements historiques en même temps.
Hein. Bah, oui, non, mais quand il se passe des choses qui vont pas bien, bah, il faut être présent. C'est notre rôle hein, de répondre. On a reçu des courriers comme quoi on n'avait aucune légitimité, qu'on devait tempérer aux forces de l'ordre, etc., etc. Alors qu'on est reconnu comme la presse. Et c'est le Conseil d'État qui nous a reconnus. Alors après le Conseil d'État, comme ça a été un peu mouvementé avec Darmanin, oui, mais bon, voilà, bon, on est toujours reconnu. Voilà. Donc oui, l'organisation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui observent ont fait une formation. Et le travail sur le terrain, c'est un groupe de trois personnes. Un qui oriente les observateurs sur le terrain, là où il faut aller ou pas, s'il y a du danger de faire un peu marche arrière et autres. Un autre qui note et l'autre qui documente.
C'est quoi la différence entre noter et documenter ?
Bah, noter, vous voyez quelque chose, donc c'est un minutier, vous expliquez rapidement ce qui se passe, et l'autre, la documentation, c'est soit une vidéo, soit des photos, des choses comme ça. Voilà, il faut que ça soit quand même complet. Alors des preuves, et puis aussi on en a besoin, parce que quand ces photos, ces vidéos sont revues, on s'aperçoit des fois de certaines choses, et même des fois on croit qu'il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Donc, en renvoyant, on s'aperçoit d'une réalité qui n'est pas forcément vue sur le terrain. Et puis ensuite, il y a un rapport qui est mis en place, un travail des observateurs qui étaient sur le terrain. Alors ce rapport, on le trouve sur le site de la Ligue, rapport Sainte-Soline 2023, fait dans les 600 pages, je crois, je ne me souviens plus. Enfin, il y a vraiment, ce qui a d'ailleurs énervé Darmanin. Mais au moins, nous, c'était des vérités. Que lui, pas vraiment. Là, il y a eu aussi un rapport, je ne sais pas si vous l'avez eu.
Empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain,
c'est ça ?
Parce que j'ai assisté donc à cette restitution, cette synthèse de rapport le 10 janvier dernier avec les parents de Serge et Mika, qui sont les deux personnes qui ont fait du coma après avoir été blessés par les gendarmes à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Vous avez organisé avec ces familles une restitution, une synthèse le 10 janvier, donc c'était à Poitiers. On a été très impressionné par la rigueur. Il y avait notamment une jeune femme qui était là, qui détaillait des aspects de ce rapport, et c'était à la minute près. Vous êtes beaucoup penché sur le fait que des gendarmes ont empêché ou entravé l'accès des secours aux blessés.
C'était sous les ordres du préfet, quoi. Voilà.
Et alors c'était minuté, 14h02, il se passe ça, 14h13...
Si l'on veut dénoncer des vérités, il faut être précis. Si on est dans le vague et autres, c'est plus crédible. Et puis, il y a des gens qui se chargeraient aussi de dire « Votre boulot, ça vaut rien, quoi. » Voilà. Alors, donc après, ces rapports sont diffusés sur le site de la Ligue, s'en va dans la presse. Des avocats aussi peuvent se servir pour défendre des gens qui ont des problèmes de justice. Le défenseur des droits aussi a ses rapports. Malheureusement, ça ralentit pas trop les violences des forces de l'ordre, quoi. d'ailleurs dans beaucoup de sujets. On a les observatoires de la Ligue des droits de l'homme, on a Défenseurs des droits, on a beaucoup d'organisations qui font des rapports, mais ça n'inquiète pas trop les politiques, malheureusement. Ça ne les arrête pas.
Enfin, heureusement que ça existe, parce que alors s'il n'y avait rien, là, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et le discours validant le pseudo-éco-terrorisme.
Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Quand même, depuis 1898, enfin, on sait que, et là on l'a encore évoqué, on sait que la Ligue des droits de l'homme, c'est sérieux. D'ailleurs, c'est ce qui a agacé Darmanin et Borne, c'est que vous seriez l'association des oiseaux du coin, effectivement, ça n'aurait pas de poids, mais quand c'est la LDH qui parle, c'est embêtant quand même.
Voilà. Alors c'est vrai que bon, il y a quelques années, on était sur des réunions un petit peu l'entre-soi, et aujourd'hui, on est dehors, on est là, on s'active, et c'est crédible, on est reconnu, beaucoup de personnes sur des événements comme aujourd'hui, passe nous voir, ah oui, la Ligue, bonjour, c'est bien, etc., etc. Au village de l'eau, il y a 2 ans, c'était sympa parce qu'on était présents, et puis il y a des gens qui passaient et qui levaient le pouce comme ça, ouais, super, quoi. Voilà, s'il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de mots, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est une reconnaissance, quelque part, et ça fait plaisir.
On se sent protégé, en fait, quand vous êtes là, parce que vous avez les yeux et les oreilles, j'allais dire, du peuple.
Je ne sais pas si c'est une protection, mais c'est au moins retransmettre...
Ça, en tout cas, ça empêche l'impunité de la brutalité.
Calme un peu aussi, quand même. Ouais. Ça la calme un peu, ouais.
Je rebondis sur ce que tu disais à l'instant. Là, tu disais, oui, il y a quelque temps, on était dans un entre-soi et machin, là, et aujourd'hui, on sort plus. Est-ce que ça veut dire que notre société se brutalise, devient plus violente, qu'il y a plus de violence d'État qu'avant?
J'ai jamais fait de comparatif, mais c'est sûr qu'il se passe des choses. Ce qui nous concerne là, aujourd'hui, l'eau, c'est pas un sujet qui était abordé. Ça se réglait quelque part. Quoi. Et là, quand on voit ce qui se passe, et puis en plus l'eau, c'est quand même un bien commun, donc on doit aussi défendre, on doit prendre part à ce problème. On peut pas laisser passer ça. Alors il faut savoir quand même qu'on a les forces de l'ordre en France, il y a un classement européen. Sur 27 pays, nous étions l'avant-dernier. Les plus violents étaient la Pologne. Oui. Et quand on observe un petit peu l'arsenal militaire, puisque les gendarmes sont principalement des militaires, c'est impressionnant les investissements qui ont été faits. Les investissements en armes pour les gendarmes, et puis après les espèces de blindés, enfin, où il y a tout un tas d'électronique, où ils peuvent nous filmer, etc. etc. quoi. Ouais. C'est des investissements, j'ai vu des prix passer, enfin, c'est colossal, quoi. Colossal.
À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État, donnez-nous les 20 milliards, ensemble on saura quoi faire. Hôpital, service public ou encore fret ferroviaire. Bas l'État policier, bas l'État policier. Bas l'État policier, bas l'État policier. Bas l'État.
On parlait tout à l'heure des droits fondamentaux avec Didier de la LDH. Il existe aussi un autre droit, le droit de retrait. Droit individuel reconnu aux agents publics afin de leur permettre de quitter leur poste s'ils estiment être confrontés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ou bien s'ils constatent une défectuosité des normes de sécurité au sein du service. Droit dont jouissent aussi les serviteurs de l'État, notamment les gens de police et de gendarmerie, qui ont le droit, voire le devoir moral et républicain, de ne pas exécuter des ordres iniques, illégaux, antidémocratiques et antirépublicains. On pensera par exemple à ces quelques rares policiers français qui manquèrent de zèle lors des rafles de juifs pendant la collaboration avec les nazis. On évoquera aussi le 17e régiment d'infanterie auquel, en 1907, sous Clémenceau, on donna l'ordre de tirer sur des vignerons du Languedoc, mais au lieu de mater la révolte, ces soldats du 17e mirent la crosse en l'air et fraternisèrent avec les révoltés.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon carence, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Et vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde règnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là, vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Gloire au 17e, chanson de Monteus en 1907, même si c'est rare et même si on peut toujours rêver, il arrive que des soldats, policiers, gendarmes ou CRS refusent d'exécuter des ordres iniques, illégaux, anti-républicains et mettent casque à terre. Cela a pu encore arriver récemment, mais si, mais ne comptez évidemment pas sur les médias dominants pour nous en informer. Ce 25 mars 2023 à Sainte-Soline, y a-t-il eu des refus d'obéir parmi les 3000 gendarmes armés jusqu'aux dents, chargés de mater férocement cette pacifique manifestation? On aura eu vent qu'après cette horreur inutile et anti-républicaine et anti-démocratique, des gendarmes ont fait des arrêts maladie. On m'a notamment rapporté qu'un jeune gendarme aurait été traumatisé après avoir exécuté l'ordre d'empêcher les secours d'arriver jusqu'à des blessés. Un bruit qui reste bien entendu à prouver. Quoi qu'il en soit, Sainte-Soline 2023, on continue à en parler avec Didier de la Ligue des Droits de l'Homme. Beaucoup de choses ont été dites et déduites, puis on n'a pas fini d'en tirer le bilan de cette répression policière de Sainte-Soline et des autres. Quand on étudie un peu notre histoire, quelques exemples. Quand les GMR, je crois, les gardes mobiles républicains, pendant les grandes grèves des mineurs, 47-48, les GMR tirent à balles réelles sur les grévistes.
C'est pas si vieux que ça. Voilà. C'est pas si vieux.
Le 17 octobre 61, il y a un massacre piloté par Maurice Papon, qui était un rouage de Vichy et qui était préfet de police à l'époque. Et il y a des centaines de Français d'origine nord-africaine qui sont jetés à la Seine, matraqués, assassinés. Bon, voilà. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'est pas une bavure, n'est pas un accident. Peut-on parler d'une
tradition des gouvernants français, qu'ils se prétendent de gauche ou qu'ils soient vraiment de droite. Parce que 47-48, le ministre Jules Moch était censé être socialiste. Hein,
Il y en a d'autres connus, si je ne dis pas de bêtises, Clémenceau, qui avait fait tirer sur la foule.
Clémenceau, le tigre. Voilà.
Parce que les personnes faisaient grève. Quoi. C'est, voilà.
Est-ce que c'est une tradition? C'est pas précis?
Non.
Une habitude des gouvernants de, voilà, quand le peuple bronche, on envoie la troupe lui tirer dessus.
On le fait taire, tout à fait. Et oui, ça a toujours été. Oui.
Sainte-Soline, c'est pas une bavure, c'est pas juste un relâchement de la discipline, c'est pas quelques zozos qui se sont fait plaisir.
Défenseur des droits, clair et don. Avant Sainte-Soline, quelques jours avant, avait fait un rappel de la déontologie du maintien de l'ordre. Donc elle savait ce qui allait se passer. Enfin, elle avait deviné ce qui allait se passer.
Voilà ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, prédisait la veille.
Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions.
Aujourd'hui, le maintien de l'ordre ne considère plus cette déontologie. Et il y a des révélations qui ont été faites par Mediapart et Libération.
Des caméras piétons des gendarmes.
Et puis tout ce qu'on pouvait entendre, voilà.
Avertissement aux personnes sensibles, attention, voici quelques extraits d'enregistrement des caméras piétons des gendarmes à Sainte-Soline, des propos violents et choquants.
Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif des manifestants.
Tiens, t'as bien marché.
J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça.
Ça va être beau à voir ça, regarde-moi les couettes.
Un vrai kiff.
Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde.
Bah, on va les manger. Hein.
Bah oui, faut qu'on les tue.
Tendu.
T'en crèves 2-3, ça calme.
Ouais.
Fils de pute,
fils de merde.
C'est un chien.
Bien joué. C'est bon ça.
J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Hein.
Ah ouais, mais il a pris de la...
Il a dû la prendre pleine gueule.
Ah, il a pris pleine tête.
Chien.
Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
Une grenade tirée à l'horizontale peut se transformer en arme mortelle.
Ouais, entendu, GM2L.
Ces tirs tendus ne sont pas des initiatives individuelles. Mediapart a pu voir et entendre des consignes de tir tendu de la part de gradés dans 9 escadrons sur 15.
Les gars, on tendu. La main, putain, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel?
On va faire des tirs tendus, putain.
Kevin, tir tendu.
Ryan, ouais. Essaye de pécer un peu.
Un tir tendu vise deux manifestants abrités derrière une bouée en forme de tortue.
Il y a moyen de les shooter là, ces fils de pute. Hein. Faut se les faire, hein.
Didier, de la Ligue des droits de l'homme.
Il y a une haine. Les forces de l'ordre, la police, si on reprend donc ce qui est notre terreau, le terreau de la République, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a un article sur la police, et la police est là pour protéger le citoyen, pas pour l'agresser. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre agressent le citoyen. Voilà.
C'est toute la différence qu'on fait entre forces de l'ordre et gardiens de la paix.
Ben voilà, absolument.
Et d'aucuns vont même, avec une certaine justesse d'ailleurs, jusqu'à parler de milices du capital, mais financées par l'argent public.
Tu peux le dire, mais après moi je réponds pas. On n'est pas dans cette logique. Moi j'aime bien dire, la Ligue ne fait pas de politique. Si, on fait de la politique, bien sûr, mais on n'est pas une politique, comment dirais-je...
Politicarde.
Oui, c'est ça, voilà. Les seules consignes quand il y a des élections, c'est de lutter contre l'extrême droite. Et il y a des groupes de travail pour lutter contre l'extrême droite, etc. Après, les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Voilà. Mais on ne rentre pas dans cette logique. Voilà.
Je voudrais faire une deuxième observation personnelle. On a été nombreuses à être surprises par la débauche de violences policières et gendarmesques, en l'occurrence de Sainte-Soline, donc 25 mars 2023. Je te parlais d'histoire de France et même d'histoire récente, voire même très récente. Si j'évoque les prénoms de Naël, Zied, Bouna, et puis on va remonter un peu plus loin, Malik Oussekine. Et puis j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps là, deux marcheuses de la grande marche de 1983 contre le racisme pour l'égalité, que les journalistes avaient qualifié à l'époque de marche des beurs. Si c'est parti de Lyon, des Minguettes et tout ça, c'est parce qu'il y avait des assassinats commis par la police sur des personnes racisées. J'en arrive à ce truc de dire, cette violence elle n'est pas nouvelle, mais... Je suis en train de me rendre compte que moi, homme blanc, quinquagénaire, vivant en centre-ville, middle class, d'un seul coup, je réalise que cette violence qui concerne les quartiers populaires, qui concerne les gilets jaunes, etc., d'un seul coup, elle peut aussi me concerner. Désormais, ces violences policières, c'est plus que pour les personnes racisées, c'est plus que pour les personnes issues des quartiers populaires, c'est pour tout le monde. Et c'est ça qu'on a pigé à Sainte-Soline aussi. Et ça fait une porte de compréhension vers ce qui se passe dans nos quartiers, mais vers ce qui se passe aussi en Kanaky ou ailleurs.
Oui, absolument. Oui. Et puis, il y a aussi une répression qui... Enfin, ça n'engage que moi. Mais il y a des répressions un petit peu plus fortes quand ce sont des contestations écologiques et autres, parce que ça touche aussi le grand capital. Et à partir de là, on envoie la force et pour maîtriser ces révélations. Quoi. Et puis il y a aussi, on parlait de droit, le droit à manifestation est de plus en plus réprimé. Il y a eu des manifestations qui étaient pro-Gaza. Alors c'est dans les Alpes-Maritimes, je crois, dans le sud-est, un préfet qui a interdit ces manifestations parce que c'était pro-Gaza. D'ailleurs, en manifestation, si on faisait, à un moment donné, ça s'est un peu calmé, mais si on se faisait prendre avec un drapeau palestinien, c'était une catastrophe, quoi.
Taxé d'antisémitisme ?
Je sais pas trop. C'est tellement aberrant que j'ai même pas cherché à comprendre. Voilà. Donc la Ligue a mis ce préfet au tribunal administratif, donc l'arrêté préfectoral a été supprimé, mais 10 fois, il a recommencé cet arrêté préfectoral, interdisant la manifestation. Alors là aussi, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'il y a des, comme ce préfet, puis plein d'autres, qui sont condamnés par le tribunal administratif, mais ils recommencent, ils continuent. Il n'y a pas de punition pour rien, il n'y a rien. Voilà, on dit non, c'est pas bien ce que vous avez fait, donc recommencez pas. Mais ils recommencent. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence ? Aucune. C'est sûr qu'il y a des lois qui sont là pour respecter. Même on peut voir les condamnations dont on a là-bas ces personnes, il y a eu le procès il n'y a pas longtemps, des gilets jaunes qui ont été tabassés dans un fast-food. 7 ans après, il y a eu le procès.
C'est là où il y a le gradé qui dit à ses troupes « Matraquez-moi tout ça, faites-vous plaisir ».
Oui, oui.
Attention, la séquence qui suit est violente et choquante. 1er décembre 2018.
Des caméras de vidéosurveillance filment la charge de CRS à l'intérieur d'un fast-food à Paris. On y voit des manifestants violemment frappés au sol, à coups de matraque et à coups de pied. C'était au pic des manifestations des Gilets jaunes. Ce jour-là, cette jeune femme se trouvait à l'intérieur du restaurant avec son compagnon. En revoyant ces images, toujours le même traumatisme.
C'est le chaos, quoi. Il n'y a pas de sortez où on vous emmène, il n'y a pas de les mains en l'air, il n'y a aucune sommation.
La charge des CRS dure moins de 3 minutes. À 19h, l'intrusion de 50 manifestants. Les premiers forcent la porte du restaurant pour échapper au gaz lacrymogène selon la police des polices. À l'intérieur, pas de pillage ni même de dégradation ou de vol, à l'exception de cette bouteille d'eau utilisée par un manifestant pour se nettoyer les yeux. Au cours de l'enquête, les fonctionnaires se défendent. L'un d'eux évoque des gestes instinctifs pour faire accélérer le mouvement.
« On n'avait pas 50 000 solutions pour les évacuer », ajoute un autre.
Confrontés aux images, plusieurs reconnaissent des gestes déplacés.
« C'est beaucoup en termes de coups. » »«
C'était n'importe quoi. La honte de ma carrière. »
Le tribunal a classé l'affaire sans suite. Heureusement qu'il y a des familles qui, normalement, ont dû faire rouvrir le procès en partie civile. Mais sinon, hop, on classe et puis voilà. Aucune suite, il n'y a rien. Par contre, si un manifestant va se faire prendre parce qu'il a fait quelque chose qui ne va pas bien, répressif, alors là, il est jugé de suite et condamné de suite. On n'a pas une instruction. Et puis on a un système aussi qui ne va pas bien dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a les JPN pour les policiers, puis les gendarmes, enfin, ce qu'on appelait à une époque les boeufs-carottes, la police des polices. Et ce sont les corps de police et de gendarmerie qui font la police. Ça devrait être détaché. il faut qu'il y ait une indépendance. Alors que là, non.
Oui, là, sur le Sainte-Soline, en fait, c'est des gendarmes qui ont fait une enquête sur des gendarmes.
Ah, voilà.
Et bizarrement, ils arrivent à rien du tout.
Il se passe rien.
Voilà, tout est toujours utile. Des fois, les gens se découragent en disant « Oui, mais ça sert à rien, de toute façon, ils ont le pouvoir, et puis nous, on est juste bons à la fermer. » Oui. N'empêche, si on a eu accès, et si Mediapart a pu diffuser les images des caméras piétons des gendarmes, oui. C'est bien parce que des familles des victimes ont porté plainte. Ben, parce voilà. Que sinon, ces images auraient été détruites au bout d'un mois, je crois.
Oui, oui, un délai, tout à fait.
Et heureusement qu'il y a eu plainte, parce que c'est ce qui fait que les images n'ont pas été détruites et ont pu être diffusées.
Absolument. Et puis les instructions aussi sont tellement longues qu'il y a en effet qu'il y a des témoignages, des images qui disparaissent, quoi, parce qu'au bout d'un temps, elles sont détruites et puis elles ne sont plus à l'instruction du dossier.
Voilà, même si des fois on est un peu découragé, se dire que non, ça ne sert pas à rien.
Non, c'est un combat, c'est un travail de fourmi au quotidien, un combat du quotidien. Alors des fois, c'est un peu décevant parce que on croit qu'on avance et puis d'un seul coup, on se heurte à un mur. Il y a un mur solide, hein. Mais il faut continuer. Il ne faut pas oublier non plus que, avant la Révolution, les personnes étaient des sujets du roi, des seigneurs, etc. Et après la Révolution, ils sont passés citoyens. Et c'est un combat qui a permis ça. Sinon, on serait toujours dans les mêmes configurations. Et c'est un combat du quotidien, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Voilà, parce qu'il y a plein de choses, il y a la corruption, puis toutes ces richesses. On dit que la colonisation en France n'existe plus. Mais qu'est-ce que fait Bolloré en Afrique, si ce n'est pas la colonisation? Et le pire, c'est que ce sont des gens qui apportent de la misère dans ces pays. Et donc il y a des personnes qui viennent dans notre pays parce qu'ils veulent ne plus subir cette misère. Ils cherchent autre chose, un meilleur monde. Enfin, on va dire Bolloré, on va continuer à faire dans la foulée, tant pis pour lui, c'est lui qui prend, mais il y en a d'autres. Ce sont des gens qui ont des chaînes de télévision, de radio, etc., et qui disent que tous les maux de notre société est dû aux migrants. Alors c'est avec leur action de créer de la misère dans ces pays que ces personnes fuient. Voilà.
Et la colonisation et le rapport colonial, mais il existe aussi sur le territoire national. Nos quartiers populaires sont des ghettos et que le système colonial perdure jusque sur notre territoire.
Oui.
Quand les personnes pas blanches bronchent un peu, elles se font Sainte-Solinée, si j'ose dire.
Oui, oui, oui. Et puis on peut voir dans notre pays, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Le droit au logement, le droit à l'instruction, etc. etc. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont vraiment pas normales. Et il faut savoir quand même aujourd'hui, alors ça c'est des chiffres d'Emmaüs. Il manque 4 millions de logements. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des logements insalubres, etc., etc., ou voire pas du tout de logements. Macron avait dit plus personne à la rue en 2017, je crois, enfin, quand il a été élu.
Sarkozy ne l'avait pas dit non plus, lui aussi.
Oh, probablement, puis même peut-être avant. Et les chiffres ont doublé en quelques années. Voilà. Et on en est là, et c'est toujours, bien sûr, le plus défavorisé. Hein. Les personnes qui deviennent des personnes sans voix, qui ne sont plus écoutées, qui vivent quelque part à la marge, ce sont quand même des citoyens français, des personnes qui font partie de la République française. Et on les laisse pour compte. Voilà, le RSA. Vous faites comment pour vivre avec le RSA? Il y a quand même, grosso modo, une population qui vit dans les centres urbains. Grosso modo, c'est la moitié. Et puis le reste, c'est dans le milieu rural. C'est pas évident quand un jeune veut passer son permis de conduire. Vous avez vu les prix des permis de conduire. Après, il faut acheter la voiture pour aller travailler, tout ça. Donc, voilà. Et si vous n'avez jamais travaillé, vous avez très très peu de secours, quoi. Alors, heureusement qu'il y a la vie associative qui permet de compenser un petit peu tout ça. Mais il n'est pas normal que la vie associative se substitue aux devoirs de l'État. Ça, c'est intolérable. Donc c'est un peu tous les combats qu'on mène et on essaie de faire pour le mieux, mais il y a tellement de sujets, et des sujets, il y en a de plus en plus. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'adhérents, un peu plus d'engagement.
On va justement y venir aussi à comment on peut prêter main forte et peut-être rejoindre la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous avez un instrument qui permet d'évaluer notre bien-être démocratique, nos droits? Est-ce qu'on va plus mal qu'avant, ou est-ce que c'est juste qu'on est plus conscient de tous les maux de notre société? Comment on va?
Pas bien. Puisqu'il y a un manque de natalité, on a inversé les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de décès que de naissances. Alors peut-être qu'à une époque, ça allait peut-être mieux, parce qu'il y a eu la période de l'industrialisation, il y avait du boulot plus qu'il en fallait. Mais est-ce que c'était bien rémunéré?
Est-ce qu'on en est sorti en bonne santé aussi, hein?
Puis en bonne santé aussi. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je pense, une inquiétude dans là-bas. Puis aussi, je reviens sur ces médias qui montrent du doigt les migrants, qui sont le mal de la société. Alors que moi, je participe à des accueils de migrants et autres, c'est pas du tout ce que l'on dit. et ça peut être même une richesse.
J'ai entendu sur France Inter, d'ailleurs, je crois que c'était un sociologue au journal de 13h il y a quelques temps. Écoutez, la France est en train de devenir un grand EHPAD. Pour faire les boulots que les anciens ne pourront plus faire, on a besoin de 200 000 paires de bras neufs tous les ans qui arrivent sur le territoire pour s'occuper de nos anciens dans les EHPAD, pour faire les boulots qui n'y seront plus faits parce que soit les gens ne veulent plus les faire, soit parce qu'ils seront trop vieux pour les faire.
En Italie, qui est un pays d'extrême droite aujourd'hui, vont régulariser la situation de migrants parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ont besoin. Mais nous, en France, on ne sait pas. Alors, le pire, c'est que en France, le pays des droits de l'homme, on n'est pas capable déjà d'accueillir ces personnes-là. Parce que ces personnes, ce sont des êtres humains. Et on doit l'accueil à un être humain. On doit le soin. Et un jour, j'avais eu quelques mots avec la sous-préfète de Saintes. Alors, je prenais l'exemple le long de la Manche, là, son garde, là. Ces pauvres gens qui dorment sous des bâches plastiques pour, en attendant de passer. Je lui ai dit que c'était honteux et que je n'y mettrais même pas mon chien. Donc là, ça l'a fait un peu réagir. Et c'est inacceptable. Parce qu'avant tout, ce sont des personnes comme tout le monde. Et on doit le respect. Après, il y a des choix politiques. Bon, bien sûr. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables. Et je pense que la population française qui repousse les personnes migrantes sont souvent des personnes qui sont dans l'ignorance, qui connaissent pas. Alors bien sûr, ils ont une culture différente, ils ont une religion différente, peut-être aussi. Mais avant tout, ce sont des êtres humains. Donc on leur doit le gîte et le couvert.
C'est aussi oublié d'ailleurs, j'ai conscience que je suis un enfant d'immigré. Hein.
Moi, ma grand-mère s'appelait Saïd. Voilà. Ouais. Moi, ma grand-mère, ça passait mieux parce que c'était des Coptes. Donc ils étaient blancs. Ils n'étaient pas frisés. Ils l'Égypte. L'insertion était plus facile.
Gérald Moussa Darmanin, Bardella, ça fait pas très gaulois non plus.
Ah oui, Bardella, oui, en effet. Oui. Bref. J'ai entendu parler.
Didier, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de main à la Ligue des droits de l'homme? Est-ce qu'on peut vous filer des sous? Est-ce qu'on peut se former pour devenir observatrice dans des équipes?
Oui, déjà, bon, donner des sous. Oui, parce qu'il y a des dons, des legs, etc., etc. Après, bah, c'est d'adhérer.
C'est des sous qui sont bien employés, parce que par exemple, pour se rendre sur une manifestation, bah, y a des frais d'essence, il y a des... enfin, ce genre de trucs. Enfin, c'est...
Il y a aussi un fonctionnement, parce que bah, le national, il y a quelques salariés. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas assez d'ailleurs, vu la tâche, il n'y en a pas assez. Mais aujourd'hui, bah, il y a quelques personnes, ils doivent être trois, je crois, je ne sais plus trop, qui s'occupent de la communication, parce que nous sommes dans une époque de réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, bah, faut alimenter, hein, et de suite, rapidement. Donc on a besoin d'argent, bien sûr, il y a un local aussi. Bon, au niveau local, il y a des sections qui n'ont pas de locaux. À Saintes, on a la chance d'avoir un local, mais bien souvent, on bénéficie des locaux qui sont mis à la disposition dans les municipalités. Dès que c'est reconnu une association locale, hop, et comme les sections sont reconnues comme une association locale, alors c'est le national qui... voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, d'être militant, donc par contre là, faut être adhérent. Donc il y a une grille des cotisations. La défense des droits en manifestation, il y a une formation, absolument. Après, vous êtes rattaché à un groupe, alors soit bah, l'Observatoire de Toulouse, bah, en fonction de votre situation géographique. Bon, nous, on préfère que ça soit en Poitou-Charentes, bien sûr. Alors, nous sommes le seul observatoire régional. Bien souvent, ce sont des sections. Et donc là, on représente toutes les sections du Poitou-Charentes. Puis il y a plein d'engagements, de luttes, de combats. Enfin, alors il y a des groupes de travail aussi à la Ligue, bah, l'extrême droite, les prisons. Enfin, il y a plein de choses. Hein, c'est...
Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences ou de diplômes particuliers.
Je n'en ai pas. Okay. Je viens d'ailleurs. Okay. C'est ce qu'on appelle les métiers d'art. Mais après, il faut avoir une passion pour ça. Moi, j'ai toujours été attiré par la Ligue. Bon, après, enfin, ça fait plus de 10 ans que je suis à la Ligue. Mais professionnellement, bon, ça m'était difficile de militer. Mais après, bah, vous poussez la porte. Du moment où vous n'êtes pas d'extrême droite, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour cet échange.
Oh, bah, oui.
Puis maintenant, je sais, quand j'irai dans une manifestation et que je vois trois personnes en blanc en train de prendre des notes, je n'irai pas les déranger.
Non. C'est pas que tu seras malvenu, mais voilà, il y a une charte de déontologie et c'est la neutralité. Donc ils ne vont pas te dire ce qu'ils font là. Voilà. Comme à Sainte-Soline, bon, après, quand il y a vraiment des blessés graves, comme ce qui s'est passé, bon, là, ils peuvent intervenir. Mais sinon, quand ils voient quelqu'un, bon, sauf qu'il est en train d'agoniser à terre, mais ils ne prennent pas part à... Ils observent. Voilà. Et c'est le seul moyen, en étant neutre, d'être crédible et d'être indépendant. Voilà.
Parce que maintenant, je sais.
Il y a quand même aussi des provocations de journalistes qui ne nous aiment pas.
Ah bon ?
Oui.
Crime de lèse-journaliste, parce que vous observez vous aussi.
Jules qui est observateur.
Bonjour Jules. Oui. J'apprends avec stupéfaction, mais qui croyait que la presse et les médias étaient les garants de notre démocratie. J'entends que les journalistes vous aiment pas des fois.
Le problème dans la presse,
ce qu'il faut savoir, c'est qui paye l'encre. Donc Jules a eu une expérience, ils ont rencontré des gens de la presse.
Bonjour. On a une différence avec la presse, c'est que nous ne travaillons pour personne. Pour l'intérêt général, bien évidemment. Mais on n'a pas de carte de presse. Une carte de presse qui signifie de travailler pour un journal, et après le journal est d'une orientation.
Donc si le journal en question appartient à quelqu'un qui vend du béton, des centrales nucléaires ou des armes, par exemple, ce ne sera pas exactement le même discours. Quoi.
Chaque journal a sa ligne éditoriale. Nous, on est sur de l'objectivité, surtout sur des faits, enfin sur quelque chose de factuel. C'est pour ça qu'on édite un minutier, heure par heure, ou minute par minute, parce que des fois, dans une heure, il peut se passer plein de choses. Il y a un rapport qui est fait, et il n'y a pas de jugement, pas de parti pris. C'est vraiment tout le travail d'objectivité de l'observateur ou de l'observatrice. Moi, depuis que je suis observateur, donc j'ai commencé en 2024, pour le village de Lourdes, en 2024, à côté de Mel. Ça a été ma première expérience en tant qu'observateur. Très très différent de ce qui s'est passé en 2023. Voilà, c'était quand même très différent.
J'ai vu trois personnes à Saint-Messant-l'École. Je crois qu'il y avait une manifestation dans les champs et trois personnes à Saint-Messant-l'École qui étaient là. Ce que je disais à Didier, je suis allé vers ces trois personnes en blanc avec mon magnétophone et on m'a dit non, on est en observation, ça, on a un protocole rigoureux, on ne parle à personne par souci de neutralité.
Oui. Après, le statut d'observateur n'est pas réservé qu'à la LDH. Nous, c'est parce que la LDH a créé un observatoire. Mais n'importe qui peut prétendre au statut d'observateur. Personne lambda, je veux dire, sans... Voilà. Ça peut être un organisme syndical, ça peut être d'autres organisations, par exemple Amnesty International, qui en a eu, ou qui en a. En 2024, c'était beaucoup d'observations sur les points de contrôle. De toute façon, il y a un rapport, qui est d'ailleurs un excellent rapport, qu'on a tous coécrit, on a tous amené notre petite pierre à l'édifice pour l'édition de ce rapport, qui est disponible sur notre site internet. Le maintien d'ordre était très différent. On sent qu'il y a une leçon... Ce qui s'est passé en 2023, il fallait pas qu'ils le refassent en 2024. Quoi. Je sais qu'il y avait des champs qui étaient réquisitionnés pour que les hélicoptères puissent atterrir au cas où il y aurait besoin d'évacuer des blessés, ce qu'il n'y avait pas en 2023. Il y a eu un peu de préparation du côté des forces de l'ordre, enfin des pouvoirs publics plutôt.
La manifestation là dont je te parle, où on est passé par Saint-Messant-l'École, il s'agissait d'aller poser des panneaux, d'après ce qu'on a compris après, devant un site agro-industriel, des gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes qui ont mis le feu à un champ. 3000 personnes à avancer et à échapper à un mur de flammes qui avançait vers nous.
J'y étais ce jour-là et puis oui, c'est vrai que c'était très impressionnant. Pourtant, je suis du monde agricole, mais j'ai jamais vu une chaume de paille brûlée. Pourtant, c'était une pratique avant, maintenant c'est interdit. Mais oui, c'est vrai que c'était très impressionnant. C'est vraiment très très rapide. En plus, il faisait très chaud ce jour-là, je me souviens.
Oui, c'était canicule.
C'était canicule.
Il y avait de la paille au sol.
Bien sûr, ouais, donc oui. Quasiment dans les minutes qu'on suivit du coup le départ de ce feu-là, je sais qu'il y a eu des posts sur les réseaux, pas forcément de médias, mais je sais que de plein de personnes disaient comme quoi il y a eu un incendie. Et la préfète s'est empressée tout de suite d'ailleurs de démentir tout de suite que non, c'était pas du tout les manifestants, c'était les forces de l'ordre qui avaient procédé à ce tir et qui a mis le feu. Quoi.
Et ça, la LDH a observé.
Totalement, il y avait ce jour-là, on était deux équipes. Donc il y avait une équipe en début de cortège et une équipe en fin de cortège. La manifestation s'est arrêtée suite à ce feu. Le champ a été évacué, tout le monde est parti. On se retrouvait dans une autre parcelle. Mais du coup, les organisateurs, je me souviens, avaient dit comme quoi il valait mieux se disperser.
Heureusement qu'il y avait un organisme indépendant, cet organisme indépendant qui est la Ligue des droits de l'homme pour observer cet événement et d'autres. Merci à vous d'être là.
Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette conversation avec Julien et Didier de la Ligue des droits de l'homme, à laquelle vous pouvez adhérer et participer. Et bien entendu, vous pouvez consulter les documents et rapports de la LDH sur son site, tapez juste LDH. Vous pouvez aussi télécharger cette émission via notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve sur votre radio encore libre préférée. Mais pour combien de temps ? Et d'ailleurs, au passage, et à ce sujet, les amis, êtes-vous bien inscrites et inscrits sur les listes électorales ? Car il est bien évident que si un gouvernement fasciste sort des urnes en 2027, ce sera la fin de nos libertés, et notamment celle d'avoir des médias indépendants comme votre radio associative chérie. Alors ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut !